48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et un 9e 48 FM Mag aujourd'hui, en cette nouvelle semaine des vacances de la Toussaint. Toujours trois invités, également Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et nous allons parler aujourd'hui de l'éducation, entre autres, devoir de mémoire avec David Davachi, directeur départemental de l'Office national des anciens combattants, car jusqu'au 11 novembre se tient la campagne de collecte du Bleuet de France. David Davachi, bonjour.
Bonjour.
Nous allons également évoquer Croque-Mais, le nouveau livre des désormais célèbres éditions Winux, avec Raphaël Winterguest, présidente de l'association Winux. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Et enfin, ce dimanche, sur le Cosmé-Jean, le club Mandorientation clôture sa saison d'orientation en Lozère avec le 11e combiné de Lozère. Jocelyne Roupios du club Mandorientation va nous donner tous les détails. Bonjour.
Bonjour.
Et nous allons commencer avec l'ONAC. Donc, jusqu'au 11 novembre se tient la campagne nationale du Bleuet de France. Peut-être, David Davachi, commencer par nous rappeler la naissance de l'œuvre nationale du Bleuet de France.
Ah, ben alors, vous nous ramenez à la Première Guerre mondiale. Et à environ 3,5 millions de blessés, 700 000 veuves, des centaines de milliers d'orphelins et un million d'invalides qui ne peuvent plus retourner au travail et dont il faut s'occuper. Le Bleuet, c'est une initiative qui part des invalides, avec cette idée qu'en confectionnant des petites fleurs, en faisant confectionner aux blessés des petites fleurs, en les vendant, on pourrait réunir un peu d'argent pour subvenir aux besoins de ces centaines de milliers de victimes de la Première Guerre mondiale. C'est devenu, entre les deux guerres, une habitude au moment du 11 novembre, une collecte. Et puis à la fin des années 50, est venu s'y rajouter le souvenir et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et l'appui, l'action sociale à travers le Bleuet de France aux anciens combattants, aux veuves et à toutes les victimes de la Seconde Guerre mondiale, et puis aujourd'hui de tous les conflits. Le 8 mai, la semaine du 8 mai, la semaine du 11 novembre, partout en France, des bénévoles, des associations, des enfants collectent pour le Bleuet de France.
Alors je suppose qu'au sortir de la guerre, c'était quelque chose d'important qui marquait les mémoires. Comment, bien des années après, les gens... vive cette collecte du Bleuet de France? Est-ce que ça marche toujours autant? Est-ce qu'on a toujours ce devoir de mémoire en chacun de nous? Est-ce qu'on fait attention à un événement qui est loin désormais?
Oh oui, de plus en plus. On est passé par une période creuse, mais ça revient très fort, vous le savez. La mémoire, depuis les années 70, c'est un concept qui s'est beaucoup développé. Les gens sont intéressés par leur mémoire familiale, font beaucoup de généalogie. Les villages, les villes sont intéressés par leur mémoire locale. Et forcément, on remonte jusqu'à cette Première Guerre mondiale qui est le moment séminal, le moment de naissance de ce désir de connaître l'histoire, de participer à l'histoire. On n'a plus de témoins directs de ce conflit. Et c'est maintenant par le travail des plus jeunes, des générations qui suivent, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, que le lien avec l'histoire du pays et même l'histoire locale reste tissé, reste fort.
Alors la France n'est pas le seul pays à mettre en place cette collecte ?
Non, il faut bien dire que le mouvement qui existe, par exemple, de la même manière en Angleterre, ou plutôt au Royaume-Uni et dans l'ensemble du Commonwealth, est très fort aussi. Il est structuré autour de l'image du coquelicot, comme nous en France autour de celle du bleuet. Et je dois dire qu'il est largement plus développé qu'en France. Le mouvement populaire autour de ce symbole et des collectes qui ont lieu, et les gens se mobilisent beaucoup plus. Les sommes réunies sont 10 à 15 fois supérieures que ce qui se fait en France. Mais c'est une autre attitude, peut-être un autre point de vue sur ces choses. Les anglo-saxons aiment beaucoup se mobiliser sur des points comme ça, en masse, autour de certaines dates. Le français, je n'ai pas besoin de vous le dire, est plus individualiste, plus, il aura les mêmes gestes de solidarité, mais à son moment, à son heure, et avec ses symboles à lui.
D'accord, c'est une semaine importante donc, pour vous, pour récolter des fonds justement. À quoi servent ces fonds ensuite ?
Alors ces fonds sont réunis partout dans les départements et remontent jusqu'à l'œuvre nationale du Bleu de France à,
et ça représente quoi,
à Paris.
À peu près, en termes
de volume. C'est 1 million d'euros collectés. Vous voyez, ça reste modeste par rapport au Téléthon ou à d'autres organisations caritatives. 1 million d'euros. Et puis ici en Lozère, c'était 7 000 euros l'année dernière. Ce qui place, il faut le souligner, la Lozère au deuxième rang des départements les plus généreux de France par habitant. C'est quasiment 9 centimes par habitant ici, si on fait une moyenne. Il n'y a qu'un seul département en France qui atteigne un pareil niveau de générosité. Et de la même manière, au niveau historique, la Lozère est un pays qui est un département qui a donné plus de 4% de sa population à ces hommes morts, tombés. C'est probablement le département qui a le plus de victimes pour la Première Guerre mondiale. Vous voyez cette concomitance des deux événements. La Lozère est très généreuse, pas simplement pour le Bleuet, mais notamment pour le Bleuet, oui.
Et donc cet argent récolté
Alors les actions, ce sont des actions à la fois sociales. Nous venons en aide aux anciens combattants, aux veuves de guerre, aux pupilles de la nation qui nous sont signalés, qui traversent des difficultés, quelle que soit la nature de la difficulté financière. Et puis nous essayons de participer avec de nombreux autres acteurs à l'éveil de la conscience et de la mémoire historique des plus jeunes sur les conflits du XXe siècle jusqu'à ceux d'aujourd'hui pour nos militaires qui sont en OPEX, en opération sur des théâtres extérieurs. Ça veut dire que nous subventionnons des voyages scolaires, une douzaine d'écoles et d'établissements scolaires étaient concernés l'année dernière en Lozère, de Chirac à Florac, de Marvejol à Chanac. Nous subventionnons des associations qui souhaitent développer des chemins de mémoire. Le dernier que j'ai en tête, c'était Champ d'Omergue dans la Vallée Longue, que nous avons aidé financièrement. Nous faisons venir des films, nous louons des salles pour les jeunes gens. Ici, nous avons réalisé au printemps, pour toutes les classes de CM2 du bassin de demande, la projection du film de Spielberg, Cheval de guerre, par exemple. Voilà, diverses actions pour sensibiliser les jeunes à leur histoire locale en tâchant de l'articuler sur l'histoire nationale.
Concernant cette semaine de collecte, quelles sont les actions mises en place pour récolter des fonds ? On va voir des jeunes élèves qui se baladent dans les rues comme ça a pu se faire ces dernières années en...
Oui, ça se fait régulièrement. Il se trouve que les hasards des choses font que ce 11 novembre, nous n'avons pas de jeunes sur Mende parce que nous sommes au moment des vacances scolaires. C'est un peu délicat. Mais je pense qu'il y aura des jeunes gens présents dans les autres points du département. Hein. Je songe à Villefort, je songe au Malzieu, par exemple. Mais ce sont les associations d'anciens combattants qu'il faut saluer ici, qui font un travail extraordinaire, qui se mobilisent, qui sont là autour des monuments, autour des commerces, dans cette semaine du 11 novembre, et qui sollicitent la générosité bienveillante des Lozériens, qui répondent vraiment très favorablement à cette demande. Et puis, nous avons mis en place ici à Mende, dans la galerie marchande de l'hypermarché, une exposition sur le Bleuet pour rappeler, faire connaître l'origine de cette association et ses missions. Et nous sommes tous mobilisés pour que les Lozériens aient l'occasion, la possibilité de participer à cet élan de générosité. Et nous, de toute façon, restons disponibles plus largement dans l'ensemble de l'année pour recevoir les dons. Il n'y a pas que le 11 novembre, les dons que les gens veulent bien nous adresser par chèque au Bleuet de France.
Et vous sentez qu'il y a une diminution un petit peu du don depuis ces dernières années ?
Écoutez, je suis très surpris. Vous savez comme moi que le climat économique se tend année après année. Et au contraire, la générosité, la solidarité ne cesse d'augmenter. Quand je vous disais que l'année dernière, 7000 euros récoltés, c'était un record. On n'avait jamais vu ça. Les gens se serrent les coudes. En tout cas, je peux dire qu'ici, en Lozère, il y a cette tradition.
Vous expliquiez tout à l'heure qu'il n'y a plus de témoins directs, on le sait maintenant, des deux guerres. C'est difficile au niveau des enfants, des jeunes élèves, à leur faire comprendre ce qui s'est passé en France et notamment en Lozère.
Alors moi, je dirais que ce n'est pas difficile. Ils sont passionnés, ils sont intéressés, ils ont envie d'apprendre sur les manières de vivre, les manières d'aborder ce cataclysme qu'a été la guerre. Et les retours et les départs et comment on vivait à l'arrière et comment ça se passait sur le front, ils sont très très demandeurs, très curieux.
Ils ont sur leur table de nuit un livre des éditions Winyuk, c'est un livre d'histoire, peut-être ça. En 2014, on va fêter les 100 ans de 14-18. Je suppose que vous êtes en constante préparation de cet événement. Il va y avoir quelque chose d'important.
Oui, je crois que chacun va se mobiliser. C'est une date extraordinaire que personne ne manquera. Je pense qu'on risque d'ailleurs davantage le trop de mémoire que le manque. Tout le monde sera présent. Alors, il y a beaucoup d'acteurs, d'associations, de collectionneurs, de passionnés. Et l'État aussi, naturellement, sera présent, coordonnera les actions. Et je sais que de mon côté, nous proposerons à toutes les écoles de passer, de leur parler de 14-18. Nous proposerons à tous les maires aussi d'aller à leur rencontre et de parler à tous les concitoyens, à tous les administrés de leur monument aux morts, par exemple, de l'histoire de leur monument aux morts. La plupart des gens ne savent plus, moins de 100 ans après, comment ce genre de monument a été érigé, dans quel contexte, avec quel objectif et à travers quelles difficultés. Nous serons aussi présents sur trois villes du département de manière plus forte, à Mende, à Florac, le chef-lieu d'arrondissement, et à Villefort pour des actions plus générales concernant les poilus de ces trois villes tombées. Mais peut-être j'aurai l'occasion de vous en dire plus.
Oui, parce que vous parlez de Villefort, mais pourquoi vous ne parlez pas de Pauillac en Margerine ? Parce qu'il me semble que Pauillac, ça a été aussi un lieu, alors peut-être pas sur la Première Guerre mondiale, mais...
Voilà, c'est ça, nous parlions de la Première Guerre mondiale, mais naturellement, sur la Seconde Guerre mondiale, la mémoire est très forte dans le département. Vous citez Pauillac, moi, je vous enverrai à l'autre extrémité du département, et à Saint-Michel-de-Dèze, par exemple. Mais bien sûr, Pauillac en Margerie, le village a reçu la croix de guerre, un village brûlé, un village dont on oublie que pendant deux ans, trois hivers glaciales, la population a vécu dans des conditions extraordinairement difficile, là où il n'y avait plus de maison.
Alors je parlais de Pauillac, c'était pas anodin en fait. Je parlais de Pauillac parce que l'année dernière, vous savez qu'on a fermé l'école publique, oui, de Pauillac dans Margerie. Et justement, est-ce que chez vous, ça vous fait quelque chose de savoir qu'une école de la République soit fermée dans un village comme ça qui a été détruit et qui était un certain symbole?
Si vous me posez la question personnellement, ça m'attriste. Je me souviens que chaque année, les enfants de l'école de la classe unique, formidable souvenir, étaient présents au monument de Pauillac pour se souvenir de ce moment difficile en 1944, apporter des fleurs, chanter des chansons, lisait un poème. L'école a fermé. Les choses changent, les services se restructurent, nous passons par un moment difficile. pour essayer quand même de maintenir, un service, par exemple celui de l'éducation, un service de qualité. Pour que les enfants soient mieux accueillis, il a peut-être fallu fermer cette école.
Raphaël, tout ce devoir de mémoire, toute cette histoire des deux guerres, vous, ça vous touche également ?
Oui, ça me touche un petit peu, mais surtout, je suis très heureuse d'apprendre que les enfants s'intéressent à ce sujet dans les écoles. J'adore les histoires où on sent que les enfants sont curieux de l'histoire, mais curieux de tout, et ils ont envie d'apprendre. Parce qu'on entend parfois que les enfants de nos jours ne s'intéressent plus à rien, mais ce n'est pas vrai, donc c'est hyper chouette.
Nico ?
Ah ben moi, le travail de mémoire, ce travail-là, enfin, on le fait dans d'autres associations aussi, pas mal, pas forcément comme principe, mais plutôt pour faire réfléchir les gens, oui, pour les amener à repenser à leurs actions de tous les jours ou à leurs engagements. Donc pour moi, le travail de mémoire est essentiel. Peut-être ce qui va nous manquer et ce qu'on aimerait peut-être développer, alors c'est peut-être aussi un projet de notre radio, c'est peut-être justement de développer la captation et faire en sorte que les gens qui ont maintenant un certain âge, qui ont vécu des guerres, alors pas la première, hein, puisque maintenant il n'y a plus grand monde, mais la Deuxième Guerre mondiale, et puis peut-être la guerre d'Algérie, puis le Vietnam, enfin voir un peu toutes ces guerres, tout ce qui s'est passé, et puis en Afghanistan aussi, peut-être avoir ces collectages, le faire avant le décès de ces gens, parce que la parole vive est quand même essentielle, quoi, et je trouve qu'après, en termes pédagogiques, entendre la voix de quelqu'un, de son vivant, plutôt que de le lire, c'est franchement plus intéressant.
Bien sûr, ça se fait déjà, des campagnes de collecte sont en cours. Et je dois dire qu'il ne faut pas renoncer sur la Première Guerre mondiale. Il y a beaucoup de gens qui pourraient nous dire les conséquences de cette guerre dans leur enfance, comment ils l'ont vécu. Ils n'ont entendu parler que de ça dans leur petite enfance. Et je crois qu'on l'oublie et que ça vaudrait la peine de recueillir le témoignage de ces générations-là.
Voilà, donc c'est un appel à ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de nous raconter votre propre histoire à travers ces périodes un peu difficiles de votre vie, on sera là pour vous, on pourra vous accueillir et faire des enregistrements pour voilà, avoir tout ça un petit peu en banque de données et puis pouvoir de temps en temps y faire référence. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage.
Merci à vous.
Et on va faire une petite pause musicale avant de passer à notre deuxième sujet. Une pause avec Brisa Rocher. Non, ça sera une pause avec le groupe Les Brigitte qui vont nous chanter « Battez-vous ».
Tout mon loup bas,
FM Le Mag.
Et voilà la deuxième partie de 48 FM, le MAC, du MAC de 48 FM, avec Raphaël Wintergest, présidente de l'association Winux. On parlait des dons tout à l'heure à hauteur de 1 million, c'est à peu près la vente de l'avant-dernier album des éditions.
Oui, c'est ça, divisé par 100 000.
Divisé par 100 000, bon, c'est déjà pas mal.
Peut-être... 100 euros, c'est bon beaucoup. Hein.
Peut-être 100 euros ? Non, ça s'est plus vendu, l'avant-dernier album.
L'avant-dernier album ? Nous, on n'est pas très branchés chiffres et tout, donc pas de questions stressantes en début de parole, s'il vous plaît.
D'accord, donc on va commencer alors par l'historique un peu de cette maison d'édition. Vous l'avez montée à deux, il me semble, avec une amie à vous.
Oui, c'est ça. Alors, Vinyux, en fait, ça existe depuis très longtemps. Et c'était pas une maison d'édition. À la base, c'était un jeu entre ma meilleure amie, Marion Fourniaud et moi. Et elle et moi, on a passé toutes nos vacances ensemble et on a fait beaucoup de notre scolarité dans la même classe. Et on a toujours été intéressés par faire des livres. Donc on passait souvent nos vacances à travailler, entre guillemets, sur des livres un peu loufoques. Bon, ça n'a jamais rien donné. Mais bon, en grandissant, le projet était quand même resté dans le fond de nos têtes. Et on a pu, en 2010, créer cette maison d'édition. Et donc ça a été évident pour nous que le nom, c'était ce jeu qu'on avait inventé quand on était petite, Vinyux, donc le mélange de nos deux noms de famille, Wintergest et Fourniaud, qui donne Vinyux.
C'est grâce à une bourse d'études que vous avez pu vous lancer, non ?
C'est un défi jeune.
Un défi jeune, oui.
Merci à la Jeunesse et Sport. Hein.
Voilà un programme, c'est la DDCSPP, c'était déjà, voilà. Ouais. Oui, donc Martine Thomas nous a accompagnés dans ce projet. Donc on a touché une bourse de 6 000 euros au tout début de notre installation, donc ça nous a complètement mis le pied à l'étrier.
Et ça vous a permis de faire quoi, ces 6 000 euros ?
Ça nous a permis d'imprimer le premier livre, donc Je t'aimerai toujours. Ça a financé complètement l'impression de ce livre, et donc pour nous, ça nous a permis de nous constituer un stock et d'avoir déjà pas de dettes, pas avoir avancé énormément
d'accord.
de trésorerie.
Et d'avoir un fonds de livres
complètement.
À la vente.
Vous êtes parti sur le roman jeunesse, enfin sur le livre jeunesse, pourquoi ?
La littérature jeunesse, c'est vraiment une passion pour nous. On a toujours adoré ça. Mais c'est venu assez tardivement, en fait. On aimait bien les livres quand on était petite, mais en grandissant, on a découvert ce nouveau courant assez moderne de littérature jeunesse, les éditions du Rouergue, l'atelier du poisson soluble, des choses assez originales qui nous touchaient vraiment. On a toujours trouvé que c'était un discours intéressant pour les jeunes, différents. Et ça a été une évidence pour nous de faire une maison d'édition jeunesse, sachant que Marion s'était destinée à des études d'art et donc avait pris une filière d'illustration en Espagne, dans une école à Barcelone. Donc on a d'abord publié son premier livre.
Alors il faut expliquer, vous êtes situé au Blémard, hein ?
Oui, c'est ça. Donc, la base de la maison d'édition est au Blémard, mais on a une antenne en Belgique. On est un petit peu international. Oui, parce que Marion habite maintenant
ils
à Bruxelles.
Ils vendent à l'international.
Excellent.
C'est excellent.
Voilà.
Une des rares sociétés en Lozère qui vend à l'international.
Donc,
Angèle Vinbois.
Société entre Vinyux. Guillemets encore.
Ouais. Ça a quel statut ?
Voilà, on est une maison d'édition d'accord. associative.
D'accord.
Donc c'est pas du tout une entreprise, on n'est pas du tout branché commerce, on est plus orienté vers l'animation culturelle et la sensibilisation, la médiation culturelle. Voilà, donc la moitié de notre activité, disons, c'est la création et la vente de livres, mais vraiment la moitié de notre activité, c'est les animations, les actions de sensibilisation. Donc concrètement, c'est aller dans les écoles, parler de ce qu'on fait, essayer de sensibiliser les enfants à la littérature jeunesse et aller dans les bibliothèques et également, faire des animations, parler aux jeunes, parler de nos livres aussi, mais aussi du métier d'éditeur, sensibiliser les jeunes au milieu du livre en fait.
D'ailleurs, vous en servez pour la présentation de vos albums, il y a toujours des présentations originales.
Oui, on essaie à chaque fois Ça, c'est un peu une question d'image, de donner une image dynamique à notre maison d'édition, puis aussi de distraire les gens, de les faire venir et essayer de populariser nos livres en faisant un petit ramdam, quelque chose de festif, un petit coup à boire, des signatures.
Oui, il y a toujours l'apéro, hein. C'est normal, d'ailleurs.
Des fois, c'est pas alcoolisé, mais bon, c'est sympa quand même. Voilà, mais bon, on le fait que quand on a une idée originale, qu'il y a un vrai intérêt pour nous et pour le public de faire un événement. Donc là, pour Croque-Mé, notre dernier livre, il n'y avait pas spécialement de créneau, on n'a pas eu l'idée du siècle, donc on n'a pas fait de sortie du livre officiel, donc c'est simplement une sortie sur Internet, mais ça n'empêche pas la qualité du livre, bien sûr.
Et là, vous en êtes à combien d'albums, alors ?
Donc, Croque-Mé, c'est le cinquième.
Cinquième album.
Ouais.
Et donc, depuis 2010, ça veut dire quoi, deux, trois par an, c'est ça ?
Deux par an. On aimerait bien en 2013 faire trois, ouais. On en a fait un en 2010, deux en 2011, deux en 2012. On aimerait en faire trois en 2013.
Donc, il y a une montée en puissance un petit peu de votre maison d'édition.
On peut le dire, oui. Ouais. Fois trois depuis 2010.
David Avachi, une question, je crois.
Oui, vous travaillez, vous avez toujours travaillé à partir du Blémard pour la partie édition
Oui, on a tout fait est-ce que
ça a un avantage pour cette partie-là de votre travail d'avoir votre base au Blémard ?
Moi, ça a un avantage pour moi parce que je me sens bien au Blémard. Donc, je travaille chez moi et je suis très heureuse comme ça.
C'est du non délocalisable, ça.
Planté à la vie, à la mort. Voilà, donc je détesterais vivre dans une ville. Parfois, c'est un petit peu handicapant pour rencontrer les auteurs, rencontrer les imprimeurs. C'est plutôt un handicap, mais d'être aussi repéré sur un territoire, ben ça facilite le travail. Donc d'un côté c'est génial, voilà, et d'un côté, mais bon, je suis hyper mobile, je prends beaucoup le train, je vais.
Puis par internet maintenant, tu peux faire énormément de choses quand même.
Oui, je travaille beaucoup avec ma postière préférée Nadine au Blémard, j'envoie des paquets tout le temps. Donc, ce côté-là aussi, c'est pas du tout un problème.
Il y a un côté humain, relationnel qui est intéressant sur un petit village.
Oui, hyper intéressant.
Lynn, vous connaissiez les éditions Winux ?
Je les connaissais un petit peu parce que, bon, je connais un petit peu Marion et sa famille. Et sinon, mais après, exactement les produits, je ne les connais pas trop. Et moi, j'avais une question par rapport à votre choix des thématiques ou d'auteurs. Comment vous faites pour, sur quelle thématique et quels sont vos auteurs ?
Alors, on ne va pas mentir, c'est des coups de cœur. Donc, c'est par rapport à notre subjectivité, quelque chose qui nous semble... Donc, nos critères, c'est quelque chose qui nous semble intéressant et qui va apporter soit du plaisir, soit de la réflexion pour les jeunes. Voilà, mais après, clairement, c'est la subjectivité de... On est, disons, quatre personnes à lire les propositions qui nous sont faites. Donc, c'est un petit comité de lecture. Voilà, donc on réfléchit à quatre, quelque chose en même temps original, où les illustrations et le texte sont très bien mariés pour se répondre et s'enrichir l'un l'autre. Et puis, un intérêt pour la jeunesse, un message important sur l'humain, sur la société, voilà.
D'ailleurs, selon les livres, vous avez changé d'auteur et d'illustrateur.
Oui, à chaque fois, on prend des personnes différentes, ou pas d'ailleurs, ça dépend.
C'est un mariage entre le texte et la représentation que vous avez de l'illustration. Vous faites comment pour choisir l'illustrateur ? Est-ce que vous recevez le texte avant, c'est ça ?
Ça dépend des projets. Là, pour le moment, en général, on avait quelqu'un qui nous proposait un texte accompagné d'illustrations. Donc au début, il y a juste deux ou trois illustrations. Si on choisit le projet, l'illustrateur continue le travail.
D'accord.
Mais là, sur le prochain projet qu'on est en train de travailler, c'est un texte que j'adore complètement et je cherche un illustrateur. Donc, j'ai quelques pistes, je demande. Il faut que l'illustrateur soit vraiment inspiré pour pouvoir donner une vie à l'album. Donc il faut qu'il y ait une rencontre en fait entre cet auteur et cet illustrateur, qui est quelque chose d'un peu magique qui se passe et qui crée le projet à deux. Et j'aimerais beaucoup développer des projets de résidence où les auteurs peuvent vraiment se rencontrer, parce qu'il faut vraiment une complicité, un partage entre l'auteur et l'illustrateur pour... ils sont co-auteurs quand même du livre.
Oui, c'est un peu comme une BD de toute façon. Hein.
Oui, c'est un peu comme une BD. Pas tout à fait.
Et vous ne travaillez pas avec Ruud Boycrou en étant au Blémar, justement, pour...
Il n'y a pas des liens entre vous.
Ruud Boycrou, ils me doivent tout.
Ils ne l'avaient pas dit la semaine dernière.
Ils me doivent tout.
Ouais. Bah déjà,
c'est comme ça qu'elle se finance en fait, la production de ses bouquins. Ça.
Non, c'est vrai qu'en plus, ils m'ont parrainé quand j'ai fait mon défi jeune. Ils ont été mes parrains financiers. Merci beaucoup, Ruud Boy. Mais bon, il faut dire qu'il me le doit bien parce que je suis la secrétaire bénévole depuis au moins 4 ou 5 ans.
Ah ouais, d'accord. Ouais. On comprend mieux maintenant ce qui se passe au Blémar.
Oui. En fait, il bosse pas, Sébastien et Antoine. Il faut absolument rien. Feignasse.
Justement, en parlant financièrement, comment vous en sortez pour financer la production de ces livres?
Bon, on fait des livres qui se vendent bien et des livres qui se vendent pas. Ça, c'est disons que les livres qui se vendent bien financent les autres. Mais on essaye de pas laisser l'argent dominer nos choix, dominer notre vie. Donc, on fait les choses qui nous plaisent et on a vraiment de la chance. Il y en a qui se vendent très bien. Alors, à partir de ça, l'économie du livre, c'est désastreux, c'est impossible de vraiment prévoir, faire des bénéfices. Ouais. Les livres coûtent très cher à produire, et puis il y a des pourcentages qui vont au libraire, c'est complètement normal, au distributeur, à l'auteur, et pas assez. Et il n'y a pas assez d'argent sur un livre, en fait, on n'arrive pas à vendre les livres.
Le prix moyen d'un livre, c'est quoi aujourd'hui?
Disons que c'est entre 10 et 15 euros pour des livres à couverture dure.
Ouais, voilà. Rigide, ouais.
Donc, voilà, déjà, si on donne 10% à l'auteur, déjà, c'est vraiment pas beaucoup. Disons qu'on tire des livres à 1000 exemplaires, vous voyez, les droits d'auteur, c'est dérisoire. Donc, c'est scandaleux. Mais
votre volume, c'est 1000, c'est 1000 livres, à peu près.
À peu près, ouais. On oscille entre 900 et 2000.
D'ailleurs, il y a eu un souci pour Croque-Mais, il a été pris en otage par les imprimeurs, non?
Alors, Croque-Mais, c'était spécial. On a fait un partenariat avec une maison d'édition à Nîmes qui s'appelle les Éditions Grandir. Je ne sais pas si vous connaissez, donc une maison d'édition plus grosse que nous, plus ancienne, qui font beaucoup plus de livres que nous. Ils voulaient, eux, ils éditent des livres qui ont toujours le même format. Et puis, c'était le même format que Croque-Mais. Donc, je les ai rencontrés, on a parlé avec eux. Donc, ils ont lancé leur livre en impression avec Croque-Mais. Donc, je n'ai pas eu la main sur l'imprimeur, le livreur, tout ça. Et effectivement, il y a eu beaucoup de retard. Donc,
mais ça y est, il est arrivé.
Ça y est, il est arrivé. Et puis, il est très beau, il est très solide. On est très contents d'avoir travaillé avec les éditions Grandir.
Donc, finalement, c'était bien de travailler avec eux.
Oui, parce que oui. C'est une maison d'édition, je trouve, très, très généreuse. Ils ont accepté... Enfin, ils m'ont proposé de faire du partenariat, de diffusion. Donc, ils prennent des croques, mais moi, je prends de leurs livres.
D'accord. Il y a un réseau qui se met en place entre vous.
Ah ouais, je trouve que le milieu... Peut-être que s'il y a d'autres éditeurs qui m'écoutent, ils vont me trouver extraterrestre, mais je trouve que c'est un milieu assez solidaire où je ne sens pas qu'il y a des concurrents, je sens qu'il n'y a que des partenaires potentiels.
Des gens qui partagent aussi la même passion, peut-être.
Ouais, complètement. Donc moi, pour le moment, j'adore évoluer dans ce milieu. Voilà, mais je suis un peu nouvelle, peut-être un peu naïve.
Ils vous ont juste demandé d'être secrétaire bénévole pendant 8 mois en échange. C'est ça. Peut-être on peut parler alors de ce livre, Croque-Mais, de savoir de quoi il parle.
Croque-Mais. Alors, Croque-Mais, c'est le nom d'un petit monstre. Et une petite fille qui s'appelle Fantine l'a trouvé, l'a découvert.
C'est un monstre masculin ou féminin? On ne sait pas.
C'est comme les anges. Donc, ce petit monstre minuscule rentre dans la poche de la petite fille et comme son nom l'indique, il croque les mets. Des mets, il y en a beaucoup dans les phrases des adultes, on s'en rend pas spécialement compte. Le oui mais c'est pas vraiment un oui, le tu peux faire ça mais pas trop, tu peux faire ci mais pas là. Donc le petit monstre, lui, il s'arrange les mets, donc il les croque et il fait disparaître comme ça pas mal de contraintes dans la vie de Fantine.
Oui, mais pas ce soir.
Non. Pardon? Tu disais?
Non, c'était une blague.
Voilà. Bravo.
Bah, merci
coupé,
Nico.
Tu m'as j'ai coupé, coupé la...
J'ai coupé la chute.
C'est insupportable.
Mais sinon... Mais tu peux reprendre.
Non, voilà. Donc, la petite histoire, c'est ce côté...
C'est un prétexte, c'est ça?
C'est entre un ami imaginaire et puis puis se réfugier dans l'enfance et dans le déni de sa responsabilité sur les bêtises, en fait. Voilà. Et donc, on a travaillé là avec la même illustratrice que « Quand je serai grand méchant loup », qui était notre troisième album. Et ça a été une telle belle rencontre avec Emilia Conessa, donc, qu'on a voulu retravailler avec elle. On a vraiment passé en revue tous ses projets et on a flashé sur Croque-Mé, qui est écrit par Muriel Zurker. Et on s'est lancé dans cette aventure et on est très contente.
Et ça vous a pris combien de temps sur cet album? 6 mois, c'est ça?
Cet album, il a été assez facile, vraiment. Donc, je dirais plutôt 2 mois de travail. Mais après, tout ce qui se fait, c'est en dehors de la maison d'édition. Donc, illustration, texte. Le texte était déjà fait, nous, quand on a pris le travail. Les illustrations, ça a été assez rapide. Emilia travaille très vite, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, vous pourrez voir, c'est les planches originales de Croque-Mé à la bibliothèque en décembre, à la bibliothèque municipale, parce que ça va être exposé avec d'autres illustrations dans le cadre de Aime lire.
Et donc la semaine sur le livre qui en passe, bibliothèque.
C'est ça, exactement, oui. C'est dans ce cadre-là.
Vous, David et Jocelyne, vous êtes sensibles aux livres jeunesse? Je sais pas, Jocelyne, peut-être.
Je trouve ça très beau et très magique, les livres pour la jeunesse, parce qu'ils incitent beaucoup à l'imaginaire et effectivement parfois des réflexions sur la vie, sur l'homme et les grandes valeurs. Ouais, j'adore les livres jeunesse. Oui.
C'est bon support pédagogique aussi. Enfin, on trouve beaucoup de livres jeunesse maintenant dans les bibliothèques, puisqu'il y a souvent dans les médiathèques ou les bibliothèques, il y a souvent une partie qui est dédiée à la littérature jeunesse. C'est le cas sur la ville de Vendôme, hein. Il y a énormément de livres, on en achète chaque année. Et après, dans les écoles aussi publiques, ou le bibliobus aussi, avec le conseil général qui amène ça un petit peu dans toutes les écoles rurales en Lozère. Donc c'est vrai que c'est une belle chose.
Oui, et puis c'est vrai qu'un enfant qui est sensible à un livre, quand il est petit, il prendra facilement un roman étant un peu plus grand. Et je pense qu'on a déjà gagné une petite bataille contre la culture.
C'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, le livre jeunesse, il incite à aller plus loin dans la lecture. Quoi. Voilà, il y a 40 ans, le livre jeunesse, il n'incitait pas nécessairement à continuer à lire après. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est très important.
Puis c'est un bon vecteur, je trouve, aussi pour les familles, les parents, même ceux qui ne sont pas forcément d'origine française, hein, peuvent trouver des livres de littérature jeunesse qui ont un niveau de langage qui est assez basique pour certains et qui leur permettent aussi d'appréhender la langue avec leurs enfants, de découvrir. Donc c'est souvent le contraire d'ailleurs. C'est le petit qui lit l'histoire à la maman. Et ce moment de partage est assez extraordinaire.
Il y a même des éditions très pédagogiques avec des éditions bilingues. Le CDDP édite des albums comme ça. Donc nous on préfère être dans la lecture plaisir et pas dans la pure pédagogie. On va ensuite accompagner les albums dans les écoles et donc en tirer quelque chose, disons,
à
valeur scolaire, entre guillemets, mais on met le plaisir au cœur de tout ça.
Oui, mais ça reste le premier vecteur, d'ailleurs, le plaisir.
Et lors de la sortie du livre d'avant, vous avez mis en place aussi une opération intéressante par Internet où les enfants pouvaient, à partir du livre que vous proposiez, créer leur propre livre.
Oui, et effectivement, vous êtes bien renseignée.
Ah oui, je suis l'actualité des éditions Winix.
Donc oui, c'était un petit album qui s'appelle « Rien qu'une fois ». Et cet album était accompagné de tout un projet pour vraiment pousser les enfants à produire eux-mêmes leur propre poésie, exprimer leurs rêves.
Leur propre maison d'édition.
Ça aussi, voilà. Et donc, on a créé un site internet qui s'appelle rienqu'unefois.fr où les enfants peuvent mettre en ligne leur propre livre, leur propre version de « Rien qu'une fois ». Voilà, donc c'est hyper intéressant. On travaille encore avec ce site dans les écoles. Je vais notamment lance un projet là pour 2013 avec l'école de Villefort, un gros projet autour de Rien qu'une fois. On va travailler aussi dans l'école de Badarou, la petite école privée de Badarou avec Croque-Mé. on a des projets avec pas mal d'établissements, peut-être un peu plus ponctuels. Voilà, et puis effectivement, ça nous est arrivé d'arriver dans une école et de leur faire créer une maison d'édition pour les sensibiliser à ce métier qui est très peu connu, en fait. C'est normal, parce que c'est pas très clair. Parce que le métier d'un éditeur, c'est très différent d'une structure à l'autre. Donc, on a pu quand même déblayer un peu le terrain et expliquer quels étaient les enjeux de ce métier. Et ça, c'était dans l'école de Saint-Flour-de-Mercoeur, donc une assez petite école. Et ça a été une aventure vraiment passionnante, et pour les enfants aussi. Et beaucoup de passion à travailler avec eux, et je pense que c'est chouette.
C'est, d'ailleurs, ça doit être la seule maison d'édition en Lozère, les éditions Winux. Enfin, je sais pas, mais...
Oula, vous allez en vexer certains, là. Non, il y en a d'autres.
Il y en a d'autres.
Il y en a une à Nasbinal, qui s'appelle Au Bon Albert.
D'accord.
De poésie et de littérature contemporaine.
D'accord.
Il y a aussi Roger Lagrave à Florac, qui fait des contes traditionnels. Bon, il y a le CDDP qui édite un peu de...
Mais qui est la boutique de l'éducation nationale.
Voilà, mais disons que c'est plus au niveau régional, leur maison d'édition.
C'est le CRDP,
oui. Oui, voilà. Et puis, il y a aussi la Fédération des foyers ruraux qui édite des livres en partenariat avec les foyers ruraux.
Oui, mais ce sont plus des projets qu'une vraie maison d'édition avec des salaires, avec des gens qui travaillent sur un objectif qui est celui-là. Là, c'est plus des projets qui sont des accompagnements d'expériences
artistiques. À part au Bon Albert, à Nasbinel.
À part le Bon Albert, peut-être, voilà. Oui, tout à fait.
Bon, vous parlez de salariés. Pour le moment, chez Vignoux, il n'y a pas encore de salariés. Donc, c'est vraiment...
Donc, vous vivez de quoi?
Pour le moment, vous voulez vraiment le savoir? Je vole. Non, je suis au chômage.
D'accord.
Ouais, je suis au chômage et l'objectif, c'est 2013,
arriver à
avoir un salarié dans notre structure, parce qu'il y a vraiment du travail, quoi. Mais il n'y a pas assez d'argent, voilà. Donc, on espère qu'on touche du bois. Voilà.
D'accord.
Et où est-ce qu'on peut acheter vos livres, justement, pour essayer que vous récupériez un peu d'argent?
De faire bouillir la marmite. Bon, aidez-nous pour qu'on puisse faire des cadeaux de Noël.
À Noël, même à n'importe quel moment, c'est bien.
Oui, alors on peut les acheter dans toutes les librairies lozériennes. Il n'y en a pas assez, malheureusement.
De librairies ou de livres?
De librairies. Ouais, on a assez de
c'est
livres, ça
vrai.
Va. Ça.
C'est bien vrai, il n'y a pas assez de librairies.
Ouais, mais il y en a une nouvelle à Florac, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On peut aussi les acheter en ligne sur le site internet, ou bien si vous êtes dans un autre département, je sais pas, les gens nous écoutent.
On nous écoute ailleurs, de partout.
Hein. Partout.
Ouais. Même au Venezuela.
C'est vrai.
Pas dire ce mot.
C'est pour ça que je l'ai pas dit.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Hola, todas la gente.
Es un mensaje especial.
Donc vous pouvez aller chez un libraire si vous êtes dans un autre département et le commander. Comme ça, moi, c'est très bien. Ça me donne des contacts avec des nouveaux libraires. À chaque fois, je les appelle. Je leur dis de prendre tous mes livres au lieu de prendre que le livre que vous avez commandé. Donc, n'hésitez pas à commander par vos libraires préférés dans les villes que vous habitez.
Puis il y a un truc quand même qui est très particulier chez vous. Enfin, que je trouve, il y a un vrai rapport avec l'artistique. C'est-à-dire une vraie conscience que c'est aussi une œuvre à part entière, un bouquin comme ça. Alors... diffuser en plus grand nombre, mais que ça reste quand même un bel objet artistique, quoi. Et que c'est pas, on n'achète pas que du papier avec des choses écrites dessus, c'est beaucoup plus que ça, quoi.
Oui, on a une vraie sensibilité, notamment parce que Marion est illustratrice, mais moi aussi je choisis les projets avec un grand soin, et puis il y a tout le graphisme aussi pour mettre en valeur le texte comme les illustrations. Oui, c'est quelque chose qui nous passionne aussi.
D'accord, donc winux.com, c'est ça ?
Éditionvinux.com.
Éditionvinux.com. Merci beaucoup Raphaël, on va faire une pause musicale. Je suis sûr que nos auditeurs veulent savoir s'ils peuvent faire une course d'orientation en lisant un livre des éditions Winux. Et on le saura après Imani.
I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign.
You are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes. But I could say, please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say, please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game. You're the same man. I know the game. It has your name. And I have to live. I'm the one to blame. Cause I believe everything you said. But I could say, please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say, please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend. And at the end, the arrow dies with all your lies. And I'm a fire sign. You're a water sign. And I know you and I will never fly. I could say, please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say, please, 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 please. You'll be the same, 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 same. And I could say, please, 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 please. You'll never change, 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 change. Change.
48 FM Le Mag.
Et voilà la troisième partie maintenant de ce 48 FM Le Mag où on va parler sport avec ce week-end le club Mans d'Orientation qui clôture sa saison d'orientation avec le 11e combiné de Lozère. Jocelyne Roupios, donc vous faites partie du club Mans d'Orientation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ?
Eh bien, le club Mans d'Orientation est né il y a une dizaine d'années, en 2001 exactement, avec sous l'impulsion, ben, comme toute association, d'un petit groupe de passionnés de cette activité qui voulait faire courir et faire découvrir le territoire de la Lozère, qui est vraiment un terrain de jeu extraordinaire pour cette activité.
Mais peut-être nous expliquer, pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce qu'une course d'orientation ?
Course d'orientation, alors c'est vrai que le mot course fait peur un petit peu, parce que ben, courir, voilà. C'est... Mais la course d'orientation, c'est le principe,
on
en fait...
On court déjà
c'est...
toute la journée, donc...
Voilà. Et je reviendrai un petit peu après. Mais c'est vrai que c'est... aller découvrir un point particulier, aller de point particulier en point particulier qui sont représentés par une carte, donc symbolisés sur une carte et matérialisés sur le terrain par une balise. Et ça, effectivement, dans un temps, soit un temps contraint, imposé, ou alors le plus rapidement possible. Voilà, donc les points particuliers, en plus, comme on travaille, donc c'est la course d'orientation se fait sur un support cartographique particulier qui est très précis, puisque la plupart du temps, on court. Voilà, les cartes, elles sont le plus souvent au 10 millième, mais voire 5 millième, et même là, ce week-end, une partie de la carte va être traitée au 2500ème. C'est-à-dire qu'un centimètre sur le terrain, c'est 25. Enfin, un centimètre sur la carte, c'est 25 mètres sur le terrain. Donc, c'est effectivement d'une très grande précision. Et on peut matérialiser sur ce type de carte un rocher, petite mare, un arbre particulier. On est vraiment.
On se sert que de la carte, on n'a pas besoin de boussole.
Alors, Le support, c'est vrai que le parcours, la matérialisation, on a notre la carte comme support pour se déplacer, savoir où est-ce qu'on veut aller. Après, effectivement, il faut pouvoir se repérer dans l'espace et notamment avoir une boussole parce que savoir, quand on est en forêt ou quand on n'a pas l'habitude ou quand il n'y a pas soleil, pouvoir se repérer, se dire je pars dans la bonne direction ou pas.
Ou sinon, il suffit de suivre le premier. On
n'est jamais sûr que c'est le premier.
Ou le dernier.
Oui. Le dernier. Après, s'il choisit
c'est
un
peut-être
mauvais
un
chemin.
Un chasseur.
C'est accessible à tous.
Il a un gilet
comme
fluo.
Course.
Alors, l'activité, elle est vraiment accessible. Elle est accessible à tous parce que chaque manifestation, il y a plusieurs parcours, il y a différents parcours de technicité et de durée différentes. Donc, comme on dit, c'est comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Et c'est vrai que là, on le voit sur l'ensemble des manifestations qui sont organisées à l'échelon départemental et même national. Et sur ces manifestations, il y a des parcours pour les tout-petits et même parfois pour les très petits, ce qu'on appelle des parcours.
À quel âge ? À partir de quel âge vous faites
Alors, généralement, il faut pouvoir quand même se débrouiller.
Faut savoir marcher, quoi.
Il faut savoir marcher. Ouais, tout à fait. Mais ce qui existe au niveau de la fédération, ce sont pour les plus petits, c'est des parcours ficelles, où en fait, c'est un petit parcours qui peut faire 200 mètres, qui est matérialisé par une ficelle au sol. Il y a quand même des balises à un rocher. Et c'est pour des enfants qui ne savent pas nécessairement lire, en fait, c'est un symbole qui est représenté sur la balise et sur leur carton de contrôle. Et s'ils sont au bon symbole, ils poinçonnent leur carton de contrôle. Voilà, ça c'est vraiment le tout début. Et après, sur les manifestations, on retrouve vraiment toutes les catégories d'âge jusqu'aux personnes qui viennent, et ça je suis très admirative et j'espère pouvoir en profiter, qui ont peut-être des difficultés de déplacement, qui viennent, qui ont leur petite canne, mais qui ont leur carte, leur balise, leur boussole et qui vont faire leur parcours qui est adapté à leur âge et à leur qualité physique.
Ça attire du monde dans Lozère, la course d'orientation ?
C'est une activité qui reste encore même à tous les échelons assez confidentielle. Au niveau du club, de l'activité en Lozère, on est membre d'orientation comme club formateur et comme club vraiment actif. Après, il y a un deuxième club qui est une deuxième association qui est affiliée à la fédération. C'est Azimut Gévaudan, les organisateurs du Gévaudathlon, le raid qui a lieu au moment de l'ascension. Et on est en Lozère, on est une vingtaine, 25. Bref, sur les deux associations, elle est à peine 30 licenciés. Mais toutefois, chaque fois qu'on organise une manifestation au niveau départemental, il y a entre 50 et 60 pratiquants réguliers de Lozère qui viennent sur nos manifestations. Donc c'est une activité qui attire parce que, quelque part, elle est ludique.
C'est comme une chasse au trésor, quoi.
Un petit peu, tout
c'est
à fait.
Un petit peu le principe.
Voilà, c'est un petit peu le principe de la chasse au trésor.
Et vous trouvez des trésors en Lozère ?
Ah, il y a des très jolis endroits, oui, tout à fait, à découvrir.
En fait, le trésor, c'est la Lozère, on peut le dire comme ça.
Oui, tout à fait. Ouais, le trésor, c'est la Lozère.
Ce sont les paysages.
Ces paysages, c'est particulier.
Alors, comment vous faites justement pour choisir tel espace ? C'est en fonction de la déclivité, en fonction de la géographie, de ce qu'on y découvre ? C'est quoi le...
Le principe pour effectivement choisir un site d'orientation, c'est de trouver un endroit où il y a peut-être pas nécessairement beaucoup de dénivelé, bien que ce soit intéressant, mais surtout beaucoup d'éléments particuliers qui vont nous permettre d'avoir un espace riche en rochers, croisements de chemin, arbres, bosquets, ce qu'on appelle des petits rentrants, des petits mouvements de terrain qui vont faire que ce sont des points particuliers intéressants qu'on va pouvoir inclure dans des parcours. Voilà, et donc c'est vrai que ça demande beaucoup de travail de prospection.
Oui, c'est ça.
Ou au hasard de nos balades à pied, à vélo ou d'autres, voilà, sur d'autres supports, ben voilà, on dit tiens, à cet endroit, ça pourrait être intéressant, donc on va aller prospecter un peu plus, ou on regarde une carte, une top 25 là, de l'IGN, et puis on voit qu'il y a des courbes de niveau qui paraissent intéressantes, et donc on va voir et on se dit tiens, là on peut faire une jolie carte de course d'orientation, puisque c'est quand même un support particulier.
Alors, oui, Nico, vas-y.
Et après, les cartes, vous les procurez où ? Vous les fabriquez ou est-ce que...
Non, on ne les achète pas. Les cartes, il faut que... Quand on choisit de cartographier un secteur... quand on choisit de cartographier un secteur, donc effectivement, il faut qu'on fasse appel à un cartographe spécialiste dans la cartographie course d'orientation. Ah, et d'accord. On part à partir de ce qu'on appelle de photos aériennes ou de photos. Enfin, là, je ne suis pas tout à fait spécialiste dans ce domaine, mais enfin. Après, il y a quelqu'un, donc un cartographe, qui va sur le terrain et qui, mètre carré par mètre carré, relève tous les points particuliers.
C'est un gros travail.
Ah, et qui a un coût. Mais c'est notre équipement sportif. Il y en a qui ont un gymnase pour jouer au handball ou pour un stade. Donc, il y a une infrastructure, un bâtiment, une piscine. Bon, les nageurs, ils ont la piscine. Nous, notre équipement sportif, c'est la carte.
Oui.
Et alors donc, une fois que c'est repéré, les poinçons, ils restent en fixe ? Ça reste un parcours de course d'orientation ?
Alors, il y a différentes... A priori, la carte, c'est l'équipement. Après, il y a certains espaces, et on en a quelques-uns en Lozère, qui sont ce qu'on appelle des espaces sport orientation, où il y a effectivement des balises fixes. Et donc, en se procurant les cartes qu'on essaye d'actualiser au fil des années, parce que, bon, ben, un espace... Après, bon, ben, par exemple, il y a des travaux forestiers. Donc, au niveau de la cartographie, ça change, puisque, voilà, ou des pistes qui sont créées, d'autres qui sont abandonnées. Donc, nous, il faut qu'on ait un entretien, enfin, disons, une mise à jour régulière des cartes d'orientation. Et donc, sur certains espaces, effectivement, il y a eu un plan de création de ces espaces orientation permanents avec des balises fixes et les cartes peuvent être disponibles soit au comité départemental de course d'orientation ou dans certains offices du tourisme.
Là, ce week-end, vous clôturez votre saison. Une saison, c'est combien de courses à peu près ?
En course d'orientation, la saison, elle est, contrairement à la plupart des activités sportives, du 1er janvier au 31 décembre. Elle est basée sur l'année civile. Et si vous regardez le calendrier national, il y a des courses du 1er janvier au 31 décembre, en gros. Donc, voilà. Après, c'est vrai que nous, on module. Donc, là, ici, en Lozère, nous, on organise des manifestations... Par exemple, sur 2012, on a démarré en janvier, fin janvier, et puis là, on termine. Et en fait, on a organisé cinq manifestations. Enfin, donc pour la vingtaine de licenciés que nous sommes au club, c'est déjà un gros investissement, quoi.
Alors, comment va se dérouler ce week-end ? Donc, c'est le 11e combiné.
Voilà, donc c'est la 11e édition, hein, sachant qu'effectivement, si vous voyez, ça fait 12 ans que le club existe. Donc c'est depuis le début que cette manifestation, elle existe. On a eu un petit break l'année dernière, parce qu'on a choisi, nous, d'aller courir, faire de la course d'orientation dans Venise. C'était super.
Ouais. Ce qui est pas mal, oui.
C'était super.
Oui, parce que ça, on ne l'a pas assez dit, mais en fait, on peut faire des courses d'orientation même dans les villes.
Voilà, et d'ailleurs, bon, ce week-end, il y a les deux. Donc, ce combiné qui existe donc depuis le début et qui, en fait, il y a de la course d'orientation pédestre et de l'orientation à VTT. Et donc, les personnes vont partir sur un parcours d'orientation qui va permettre de les dispatcher, de se faire cette orientation pédestre. À un endroit, il y a un parc à vélo, ils reprennent leur vélo et ils ont un parcours d'orientation à VTT. Voilà, sur le nord du Cosmé-Jean.
Donc, ça commence ce samedi en ville.
Alors, pour essayer d'enrichir notre week-end, de faire venir du monde, de faire aussi, parce que bon, c'est vrai que c'est une épreuve départementale, mais sur cette épreuve, on est entre, là, on a déjà près de 70 inscriptions et on est allé sur des bonnes années jusqu'à 120. Donc ce ne sont pas que les Lozériens qui viennent, ce sont aussi des gens de la région Languedoc-Roussillon, de Clermont-Ferrand, de la Haute-Loire, quoi. Donc ça amène du monde. Et pour enrichir le week-end, effectivement, le samedi en fin d'après-midi, vers 4h30, on fait une épreuve, comme disait Nicolas, de course d'orientation en ville. Sprint en ville, donc une course courte qui dure à peu près un quart d'heure. Et là, on l'a fait dans Saint-Enimi.
D'accord. Ah oui, ça va être voilà. Sympa dans
Et c'est superbe, Saint-Enimi, monte, hein. Parce qu'il y a des petits passages et des petits passages que personne ne connaît, sauf nous.
Et oui.
Alors, c'est quoi la tenue, en fait, d'un coureur d'orientation ou d'une coureuse?
Alors, c'est une tenue sportive tout à fait classique, une paire de... le short, on va éviter parce qu'effectivement, fréquemment...
On passe dans des bartasses.
Dans des bartasses. Il peut y avoir, surtout si on cherche à couper, à prendre parfois le chemin le plus direct d'un point à un autre, il y a parfois effectivement des choses qui agressent un peu. Donc effectivement, le coureur, quand on va voir le coureur d'orientation sur les courses, on va dire, oh, ils sont tous en pyjama. Parce que, bon, il y a des tenues qui sont, c'est vrai, légères, tout en permettant aux herbes ou aux petites branches de pas rayer. Souvent, on a des guêtres. Pour effectivement, quand on traverse les buissons un petit peu épineux, pouvoir se mettre en jupe après ou en short sans avoir les jambes toutes rayées. Voilà, sinon, si c'est une tenue de coureur avec des chaussures un petit peu cramponnées, pas des chaussures trop lisses, parce qu'effectivement, on n'est pas sur les chemins, on est à travers les prairies, etc. Donc, pour ne pas.
Un petit sac à dos avec de l'eau?
Ça dépend des distances.
Ouais.
La plupart du temps, sur de la course, après, chacun le voit en fonction de ses habitudes de course. Mais sur les courtes distances, on n'a pas besoin, quoi. C'est vrai que quand ça dépasse trois quarts d'heure, il y en a qui peuvent avoir effectivement besoin
de se ravitailler.
De se ravitailler, ouais.
Et donc, alors, est-ce qu'on peut y aller tout seul en course d'orientation ou est-ce que c'est nécessairement une compétition? Est-ce qu'il y en a au Blémar?
Alors, si on n'a pas, ça veut dire il faut en faire une. Hein.
Ouais. C'est
vrai que sur les parcours permanents, par exemple, où il y a des postes qui sont installés à demeure, rien n'empêche de prendre la carte et de te dire, Raphaël, tu vas je vais me faire mon petit parcours en allant de ce poste à ce poste, en cherchant le meilleur itinéraire, me faire la performance. Enfin voilà.
Les cartes sont à disposition en fait.
Voilà, donc certaines cartes de parcours permanent, effectivement, sont à disposition dans les offices du tourisme où il y a un espace sport orientation. Alors pour plus précisément, c'est vrai que le secteur du Blémar. Il n'y a pas de parcours permanent.
Il y a trop de dénivelé.
Et il n'y a pas de. Ce n'est pas une histoire de dénivelé. Après, c'est. Bon,
c'est à cause du Stevenson, peut-être. C'est trop fréquenté.
Non, ce n'est pas ça, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est qu'au moment où il y a eu le programme de constitution de ces espaces pour orientation, il y a eu des secteurs qui ont été. Moi, je n'étais pas là à l'époque, donc c'est vrai que je ne connais pas tout l'historique. Mais le Blémar, il n'y en a pas.
Ils n'aiment pas les gens du Blémar.
Et donc, pour s'inscrire sur le combiné, en fait, ça coûte quoi à la personne lambda qui veut s'inscrire, qui n'est pas adhérent chez vous?
Voilà, la course d'orientation, c'est vrai que dans toutes les organisations, en fait, sont ouvertes à tous. Il n'y a pas besoin d'être licencié, puisque sauf après pour les championnats de France où c'est sur sélection, mais n'importe quelle personne lambda peut venir faire une course d'orientation, s'inscrire sur une manifestation organisée par un club, un filiale à la Fédé. On va lui demander un certificat médical et il va avoir une licence journée, quoi. Voilà, donc par exemple pour le combiné d'orientation, ça coûte pour le dimanche, le combiné, c'est 10 € pour participer à la course.
Oui, donc c'est très très abordable.
Voilà, c'est une activité qui est abordable, effectivement. Voilà.
Donc là, pour revenir au combiné, donc samedi, première épreuve, un quart d'heure en ville à Saint-Enimy.
Ouais.
Dimanche, c'est sur le Cosmé-Jean, c'est ça?
Voilà, c'est sur le nord, la partie nord du Cosmé-Jean. Si on situe un triangle entre Masdeval, Mas-Saint-Chély et Chaldas, quoi, vraiment toute la partie nord du Cosmé-Jean, et donc où les personnes vont, enfin les concurrents, bon, ben, vont être amenés à faire un petit trail, un mini-trail pour essayer de les écarter. Après, épreuve d'orientation et le VTT orientation. Sachant que l'accueil se fait à la salle du foyer rural à Masdeval, voilà, et à partir de 9h15 pour faire des départs groupés vers 10h30.
Et vous remettez des prix ou des...
Bien sûr, tout est fort mérite récompense, et effectivement, on aime faire, notamment pour les gens qui viennent de l'extérieur, faire découvrir les produits locaux, et souvent
donc pour celle-là, en fait, on va vous proposer un partenariat, hein, donc avec un don pour les bleuets, donc une petite boîte juste pour les bleuets, voilà.
Pas de problème,
Vous pourrez gagner donc un livre Vignoux. Offert par les éditions Vignoux. C'est génial.
Nicolas nous fait un partenariat de tonnerre.
Pas offert, ils n'ont pas d'argent, Vignoux. Ils vendent. Vendu par les éditions Vignoux.
Alors, ils peuvent leur acheter au moins un ouvrage Vignoux pour le prix des petits.
Tout à fait.
Ouais.
Tout à fait.
Mais ça, c'est seulement s'il y a un parcours au Blémar.
On va y réfléchir. On va en créer un, nous.
En tout cas, merci
pour le festival.
Merci de cette présentation.
Merci.
En tout cas, ça donne vraiment envie. Je pense que voilà, c'est pas assez connu. Ça vaut vraiment le coup que les gens aillent voir, découvrent. Déjà, peut-être avec ce petit parcours-là qui serait intéressant.
Ah, dans Saint-Enimy, c'est super
ludique. Dans Saint-Enimy, ça doit être très marrant et très sympa à faire.
C'est très ludique. La course en ville est très ludique.
D'accord, mais merci beaucoup. Pour vous joindre, si on veut s'inscrire, comment on peut faire?
Voilà, alors c'est encore possible parce que bon, il va falloir qu'on édite les cartes, nous, qu'on les tire. Donc c'est encore possible de s'inscrire jusqu'à, on va dire, jusqu'à jeudi par mail à l'adresse du club mande.orientation@free.fr. Voilà, d'envoyer un petit message et on vous contacte.
D'accord, mais merci beaucoup à vous trois.
Eh bien, merci beaucoup à vous. Hein,
merci.
Merci beaucoup.